Qu'est-ce que la communication subliminale? On l'appelle également aujourd'hui communication infraliminaire.
Il est possible que l'homme disparaisse et continue à faire des sottises, mais il faut déjà dès maintenant se préoccuper d'un relais possible.
Bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous scientifique mensuel, Les Savants de Marseille. Pour cette deuxième émission, nous avons choisi d'emmener nos auditeurs bactraciens dans leur propre élément, l'eau. Nous allons plonger au large des côtes varoises, par plus de 2000 mètres de fond, pour y découvrir d'étranges capteurs. Mais, paradoxe de la science, ce n'est pas à l'activité sous-marine que l'on s'intéresse, mais à la compréhension des astres et de l'univers. Projet de recherche initialement en physique des particules, l'expérience Antares est maintenant devenue une fantastique plateforme de recherche pluridisciplinaire et internationale que nous allons vous présenter aujourd'hui.
Est-ce que vous connaissez les nouveaux axes de recherche aujourd'hui en astronomie ?
Non, pas du tout. Pas mal de recherches sur les exoplanètes. Donc il y a notamment Corot qui va être qui est lancé, je crois.
Pas du tout. Je sais qu'il y a une planète qui a été éliminée du système solaire. Ça oui, mais après non.
Bah on a découvert quelques planètes ailleurs. On répertorie les étoiles. Et on s'intéresse aux trous noirs, aux limites du système solaire et aux limites de l'univers.
Pourquoi c'est intéressant d'étudier les astres lointains ?
Alors, je pense que c'est intéressant dans la mesure où ils veulent, on va parler scientifiques, retracer un peu les origines du monde, enfin de notre système.
Pour voir un peu comment s'est fait l'univers, s'il y a différentes galaxies.
Ça permet d'avoir des informations sur la Terre telle qu'elle était avant ou telle qu'elle va devenir, ou éventuellement une future colonisation de l'espace ou... des choses comme ça ?
Pas vraiment. Tout ce que je sais enfin, tout le monde s'entend visiblement à penser qu'il y a d'autres mondes en dehors du système solaire.
Est-ce que vous connaissez les moyens d'observer les astres lointains ?
Je sais pas.
Il y a un satellite qui a été lancé. Enfin, des engins spatiaux qui ont été lancés, ou alors des télescopes sur Terre. Hubble. Dans l'espace.
Il y a les robots, vous voyez, les satellites et tout ça, mais je sais pas après exactement.
Vous pensez que c'est une question uniquement scientifique ou qui peut être peut-être métaphysique ?
Enfin, une question fondamentale qui se pose, c'est la place de l'homme dans l'univers. Ça, c'est certain que s'ils envoient des sondes, je pense que ça s'appelle comme ça, à travers l'espace, c'est bien la fameuse question de la place de l'homme, s'il est seul, etc. Donc ça pose des questions éminemment métaphysiques.
Pour parler de ce projet Antares, j'accueille aujourd'hui deux chercheurs et deux jeunes doctorants. Donc tout d'abord, Monsieur José Busto, vous êtes enseignant-chercheur, donc participant à ce projet Antares, au Centre de physique des particules de Marseille. Donc bonjour et bienvenue.
Merci, bonjour.
Monsieur Tambourini, vous êtes chargé de recherche au Centre d'océanologie de Marseille, donc également participant au projet Antares. Donc bonjour également.
Bonjour.
Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Et donc pour m'aider à animer cette discussion, j'accueille donc également deux jeunes doctorants qui sont participants et membres actifs des Savants de Marseille. Donc Fabrice Silva, jeune chercheur au laboratoire de mécanique acoustique, et Jean Césario, qui est lui jeune chercheur à l'Institut Fresnel de Marseille. Donc bienvenue à tout le monde. Donc tout d'abord, l'idée du projet Antares est assez, pour des non-scientifiques, un petit peu farfelue, puisqu'on se place au plus profond de l'océan pour aller étudier ce qui se passe au lointain dans l'univers. Donc est-ce que vous pouvez m'expliquer dans un premier temps en quoi consiste cette expérience et comment ça fonctionne ?
Eh bien, le projet Antares a pour but de détecter des neutrinos très haute énergie. Des neutrinos, c'est des particules un peu spéciales, puisque c'est des particules qui n'ont pratiquement pas de masse ni de charge et qui ont la propriété de traverser des quantités de matière énormes. Donc, de ce point de vue, c'est un vecteur très important, très intéressant pour étudier l'univers lointain et l'univers très profond, c'est-à-dire étudier des objets cosmique qu'on n'arrive pas à voir avec la lumière normale, si j'ose dire. Alors, dans ce sens, pour détecter ces neutrinos-là, on doit se mettre profond, parce qu'on ne détecte pas directement le neutrino, mais on détecte une particule qu'il va créer lorsqu'il interagit avec la Terre. Cette particule-là, elle est malheureusement aussi produite dans l'atmosphère par d'autres rayonnements. Et pour éviter de confondre la particule qui nous intéresse, les muons produits par le neutrino, avec d'autres muons produits dans l'atmosphère, il faut se mettre très profond dans la mer pour qu'on ne soit pas gêné.
Je crois que ce que vous voulez dire, en fait, c'est qu'on a choisi cette particule d'abord parce qu'elle interagit très peu avec tout ce qui se trouve dans l'espace. Et donc, elle nous permet d'avoir des informations qui sont très lointaines. Et dans un deuxième point, vous dites que pour arriver à les détecter, vu qu'elles interagissent très peu, il faut arriver à trouver le signal d'une manière ou d'une autre qui montre leur présence et qu'on doit le chercher dans un endroit où il y a très peu de bruit de fond. Donc, on va au fond de la mer... où ça sera plus simple de le trouver. Quoi.
Exactement.
Et, enfin, de manière assez simple, quels sont les objectifs vraiment d'Antares et qu'est-ce que ça apporte par rapport à la détection actuelle et à l'étude actuelle de l'univers et des astres? Quelle est l'originalité de ce projet?
Alors, d'une manière générale, quand on veut étudier l'univers, contrairement à ce qui se passe avec toute recherche sur Terre, où on peut changer les paramètres expérimentaux, la température, etc., pour mieux vérifier le modèle scientifique. Quand vous voulez étudier l'univers, vous ne pouvez rien changer. Donc on doit prendre toutes les informations qui nous viennent, en lumière visible, en infrarouge, en rayon X, etc. Et également avec d'autres porteurs comme les neutrinos. Et c'est l'ensemble de toutes ces informations, en lumière, en rayon X, en neutrinos, qui nous donne une compréhension beaucoup plus riche de ce qui se passe dans l'univers lointain.
D'accord. Et Antares, comment ça fonctionne? Donc, on est au fond de l'eau?
Bon, Antares, c'est comme tout télescope ils ont traditionnel, détecte la lumière, mais pas la lumière telle qu'on la comprend normalement. Alors, ces neutrinos, lorsqu'ils interagissent, produisent une particule chargée, qui est une sorte de gros électron qu'on appelle un muon. Et lorsque ces muons se déplacent dans l'eau, produit la lumière, qu'on appelle la lumière Cherenkov, qui est une lumière très, très faible. Donc, ce qu'on va faire, on va mettre dans l'eau des capteurs de lumière très, très sensibles. Et on va essayer de reconstruire la trace des lumières produites par cette particule.
Reconstruire la trace, c'est-à-dire concrètement?
C'est-à-dire lorsque la particule se déplace dans l'eau, crée un cône de lumière.
D'accord.
Et c'est en reconstruisant ces cônes de lumière qu'on arrive à obtenir la direction du muon qui a créé cette lumière-là, et de là, la direction du neutrino, et donc faire de l'astronomie.
D'accord, donc là on a la direction. Il me semble qu'une des originalités, c'est qu'avant de les étudier, ce sont des neutrinos qui ont traversé la Terre. Et donc vous vous intéressez finalement à ce qui se passe dans l'autre hémisphère.
Exactement. On va utiliser, comme les neutrinos, c'est une particule qui interagit très peu, il faut qu'elle puisse traverser une quantité de matière importante pour être sûr qu'il interagit. Autrement, on aura beaucoup plus de difficultés. Donc, on attend que le neutrino traverse la Terre. La plupart vont traverser la Terre sans interagir. Et certains, de temps en temps, vont interagir et produire cette particule secondaire, le muon, dans les derniers mètres avant la croûte terrestre. Et donc, c'est ces muons-là qui, en traversant, en sortant de la croûte terrestre, va traverser l'eau et produire cette lumière-là.
D'accord. Et pourquoi avoir choisi le site dont vous êtes au sud de l'île de Porquerolles? Avec une station à terre à la Seyne-sur-Mer, il me semble. Pourquoi avoir choisi ce site?
Bon, pour choisir un site, il y a plusieurs arguments. L'un des premiers arguments, c'est qu'il faut qu'il soit profond. Qu'il faut qu'il soit très profond pour ne pas être gêné par les autres bruits de fond cosmique. On est à une profondeur de 2400 mètres, ce qui est très important. On n'est pas très loin de la Terre, ce qui est également un argument important.
À 50 km, je crois.
54 km, tout à fait.
D'accord, puisqu'après, il faut faire tous les relais de l'information jusqu'à la Terre, effectivement.
Il y a un câble qui va entre le détecteur et la Terre, donc il ne faut pas que ça fasse des distances très importantes. Et puis, il y a d'autres arguments, comme le bruit de fond créé par la bioluminescence, c'est-à-dire par des petits bactéries qui créent de la lumière et que, de ce point de vue, nous gênent un tout petit peu, puisque vont simuler un peu le signal qu'on attend de neutrinos.
D'accord. Donc, enfin, je vois qu'il vous renvoie la parole.
comme vient de l'expliquer mon collègue, ce que cherchent les physiciens, c'est un trajet lumineux. Le souci, c'est que effectivement, en milieu profond, où ils ont cherché à se mettre à l'abri de toute lumière, en quelque sorte, il y a des organismes, macro-organismes et micro-organismes, qui vont faire de la lumière. Les macro-organismes, on a tous plus ou moins une image dans la tête d'énormes poissons avec des têtes bizarres et une petite loupiote en face. Ben voilà, c'est un exemple d'un macro-organisme qui va générer de la lumière pour attirer les proies et les ingérer.
Et donc perturber les mesures que vous cherchez à faire.
Perturber, pourquoi pas, effectivement, les mesures qui sont faites sur Antares. Il y a aussi des micro-organismes. Alors là, c'est les bactéries, des bactéries bioluminescentes. Donc, c'est tout à fait naturel. Ce n'est pas une pollution au sens...
Au sens écologique,
ouais, c'est un background lumineux, plutôt une pollution lumineuse pour les mesures faites sur Antares. Et donc, ce qu'on cherche à évaluer en ce moment, c'est la part, justement, de cette bioluminescence, de cette luminescence due à des organismes biologiques, pour éliminer ce background qui, parfois, est perturbant pour les analyses. Alors, ce n'est pas tout le temps très fort. Il y a une sorte de saisonnalité. Enfin, ça, on n'est pas encore arrivé à montrer une réelle saisonnalité, mais il y a un background donc plus ou moins fort en fonction de l'année.
Vous avez identifié quelque chose par rapport au courant, non, il me semble, en Méditerranée, qu'il y avait en fait une corrélation entre les courants. Enfin, j'avais lu 17,6 heures.
Ouais, alors,
qui est la...
Effectivement, il y a eu une corrélation entre la vitesse du courant et l'augmentation de la luminescence. Mm-hmm. Là encore, il faut qu'on aille un peu plus loin parce que en milieu profond, il peut y avoir effectivement le courant peut entraîner des organismes qui sont pélagiques, c'est-à-dire qui flottent dans l'eau et donc qui au contact des photomultiplicateurs peuvent émettre de la luminescence.
D'accord. Très bien.
Voilà. Et donc au plus le courant va être fort, au plus il va entraîner ces organismes sur les photomultiplicateurs et au plus la lumière risque d'être importante.
D'accord, donc on reviendra plus précisément sur tout ça dans la deuxième partie. Si on revient un peu plus sur Antares, déjà, enfin, ça aurait dû être un point de départ, mais de quand date ce projet, de quand date cette idée, comment elle est née?
Bon, le projet date d'il y a à peu près 10 ans. L'idée elle est relativement ancienne, c'est des physiciens américains qui, il y a peut-être une vingtaine d'années, ont déjà eu l'idée de plonger des capteurs de lumière très sensibles dans l'océan pour observer ce type des particules, ces neutrinos et la lumière que le muon produisait. Donc, c'est une collaboration qui a commencé petit à petit ici.
Une collaboration
internationale qui a grandi. Actuellement, il y a à peu près 200 chercheurs qui travaillent.
D'accord.
Et elle est purement européenne. Il y a principalement, il y a la France, l'Italie, l'Allemagne, l'Hollande, l'Espagne et la Russie qui collaborent dans ce projet.
D'accord. Et on en est où?
Alors, donc, pendant longtemps, on a dû faire un travail des recherches, des développements, des recherches du site. Donc, on a travaillé beaucoup pour chercher un site dans lequel la bioluminescence ne soit pas très, très importante. Et puis ensuite, il a fallu faire un travail des recherches et développements des capteurs et de l'électronique qui est associée.
Comment capter, en fait, ces neutrinos?
Cette lumière qui est très faible, et surtout dans un milieu qui est très hostile. Mm-hmm. Travailler à 2400 mètres de profondeur, ce n'était pas facile, et dans la mer, encore moins. Donc il a fallu faire pendant des années tout un travail assez impressionnant. Et donc maintenant, depuis le mois de mars dernier, 2006, on a commencé à installer la première ligne du détecteur. Le détecteur, il doit être formé par 12 lignes.
D'accord.
Et dans chacune de ces lignes, il y a 75 capteurs de lumière, qu'on appelle des photomultiplicateurs.
D'accord. Donc là, il y a une ligne pour l'instant au fond.
Donc,
il y en a
au mois de mars, on a installé la première. D'accord. Au mois de septembre, on a installé la deuxième. Et bientôt, on a mis déjà à l'eau la troisième ligne.
Les deux vont être connectées.
Voilà, elle n'est pas encore connectée parce qu'une fois que la ligne elle est dans l'eau, il faut la brancher. Mm-hmm. Il faut lui mettre de l'électricité puis prendre les données. Donc la troisième, elle est aussi dans l'eau, mais elle n'est pas connectée. Et pour la fin de janvier, il y aura la ligne 4 et 5 et qui seront connectées. Donc pour la fin janvier, pratiquement, mois de février, la moitié du détecteur pratiquement sera déjà complet. Et le détecteur entier, les 12 lignes, on espère qu'il sera terminé pour la fin 2007.
D'accord. Et il me semble que ça doit prendre une grosse surface non, au fond de l'eau. Ça...
Il prend une surface de 1/10 de kilomètre carré.
D'accord.
Parce que le problème, c'est que ces neutrinos, sont non seulement ils interagissent peu, mais en plus, ils ne sont pas très, très nombreux. Pourquoi ? Parce qu'ils viennent de très, très loin. Donc, pour ça, il faut offrir un volume suffisamment grand pour être sûr qu'on va en détecter un nombre suffisamment important. Mm-hmm. Là-dessus, donc, on peut dire déjà qu'Antares, c'est un premier, si j'ose dire, presque prototype avec lequel on va voir que la technique fonctionne bien. Et un projet beaucoup plus grand pour un volume de 1 km cube est déjà en train de se préparer, avec lesquels on aurait une potentialité des découvertes beaucoup plus importante.
Toujours sur le même site ou...
Ça, ce n'est pas encore, défini.
En plus de ces 12 lignes, je voulais préciser qu'il y a aussi une ligne instrumentée qui justement permet d'obtenir des données océano, de température, de salinité, de courantologie, etc., etc., et qui, du coup, nous intéresse effectivement énormément.
Mmh. Donc, c'était justement la deuxième partie sur laquelle on allait revenir. Juste rapidement pour finir un peu sur Antares, quels sont les premiers résultats ? Est-ce qu'ils sont prometteurs ? Est-ce que vous en avez déjà ?
On a des résultats, mais qui sont très, très préliminaires, parce que pour reconstruire réellement la direction des neutrinos, il faut plusieurs lignes. Donc, comme on a dit... Actuellement, il n'y en a que deux, donc la reconstruction elle n'est pas très, très riche, mais on observe déjà tout à fait des muons, on les reconstruit très bien et on est vraiment très, très confiant.
Quand vous dites on les reconstruit, c'est-à-dire ?
C'est-à-dire qu'à partir de l'information de cette lumière-là, on reconstruit, on ne voit pas réellement la direction du neutrino, mais on reconstruit la direction du neutrino à partir de la lumière que le muon produit.
Un des premiers résultats, c'est d'avoir déjà mis ces lignes dans l'eau.
Oui, il y a
parce
déjà,
que,
voilà.
Sur un plan technologique, c'est quelque chose d'énorme, quoi.
Oui, déjà, je pense qu'effectivement, il y a un apport uniquement en termes de recherche et d'études.
Tout à fait. Il faut dire que c'est la première fois au monde qu'on installe des détecteurs de ce type-là en mer qui fonctionnent pendant un temps suffisamment grand. Ça n'a jamais été fait.
D'accord, donc c'est vraiment... Et ça n'a jamais été fait. Et est-ce que depuis, ça a été...
Non.
Est-ce qu'il y a d'autres détecteurs similaires qui ont vu le jour ou...
Il existe d'autres détecteurs similaires au pôle sud, dans lesquels, au lieu d'utiliser l'eau de la mer, on utilise la glace.
D'accord.
Dans ces cas-là, on fait des puits de plusieurs kilomètres dans la glace et on introduit les lignes de détection. Mais la sensibilité, elle est un peu moins grande parce que la lumière dans la glace diffuse plus. Et donc, on arrive moins bien à reconstruire la direction du neutrino initial. Donc, en mer, les propriétés sont meilleures, la diffusion est plus faible et la sensibilité doit être meilleure. Et c'est la première fois au monde qu'on fait ce genre d'expérience.
C'est-à-dire que le neutrino, quand vous le détectez, vous savez à peu près d'où il vient, de quel cône dans l'espace il vient à peu près ?
Non, pas du tout. C'est-à-dire les télescopes, comme un télescope où on pointe déjà une étoile ou un objet, là, on détecte dans toutes les directions, si j'ose dire. Hein.
Ouais.
Et c'est l'avantage de pouvoir couvrir un espace beaucoup, beaucoup plus grand. Donc c'est l'information de la lumière reconstruite qui nous donne la direction du neutrino qui a produit la particule chargée, le muon qui produit la lumière.
C'est pour ça qu'il est important d'avoir plusieurs lignes et plusieurs étages de photomultiplicateurs pour essayer d'obtenir le trajet du muon. Mm-hmm.
D'accord. Et juste quelques mots en termes de financement. Quels sont les gros financeurs en fait de ce projet? Parce que je suppose que ça doit être...
Le financement, c'est les instituts nationaux de recherche des différents pays. En France, c'est le CNRS, l'éolien de pétrole, l'Institut national des physiques nucléaires, des physiques des particules.
Et
les CEA, bien sûr. Mm-hmm. Et dans les autres pays, eh bien, c'est l'équivalent. C'est les instituts de recherche traditionnels.
Vous avez eu quelques financements des collectivités locales, non, il me semble aussi,
la région.
Oui, bien sûr. Il y a aussi contribution de la région, mais le gros, disons, du financement vient
c'est
des
organismes de recherche. Oui. Très bien. Donc, nous allons continuer sur la découverte et les astres avec aujourd'hui l'anecdote des sciences qui portera sur la découverte de Neptune.
Mon oncle, infâme bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir, il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout.
Lors de la dernière édition de l'émission des Savants de Marseille, nous vous avions présenté comment certaines découvertes scientifiques pouvaient être dues au plus grand des hasards, comme la découverte de la radioactivité par exemple. Cependant, il existe aussi des découvertes programmées, comme la découverte de la planète Neptune, qui a existé avant même d'avoir été observée. Depuis les Grecs, depuis la Grèce antique, on connaît les 6 premières planètes du système solaire, Mercure, Mars, Vénus, Jupiter, Saturne et bien sûr la Terre. Il faut quand même attendre le 13 mars 1781 pour découvrir Uranus par William Herschel qui observait le ciel en recherche de nouvelles étoiles et qui s'est aperçu d'un nouvel astre inconnu qu'il a vite identifié comme une nouvelle planète. À peine 7 ans plus tard, pas mal d'astronomes travaillant sur l'étude de cette nouvelle planète s'aperçoivent que la trajectoire est très perturbée et ne correspond pas aux calculs de la mécanique céleste découverte et régie par les lois de Newton. À peine un siècle plus tôt, ces lois avaient été découvertes. Et puis on s'aperçoit que cette planète ne suit pas la trajectoire prévue. Alors deux théories s'affrontent. Certains, comme par exemple le grand astronome Lord Airy en Angleterre, supposent que la théorie de Newton n'est pas bonne quand on est trop loin du Soleil. D'autres, par contre, ont l'intuition assez géniale de se dire qu'une planète nouvelle perturbe la trajectoire d'Uranus et que c'est à cause de cette planète que la trajectoire d'Uranus est différente des calculs. C'est cette théorie défendue par Alexis Clairaut qui sera défendue par la majorité des astronomes de l'époque. En 1845, après 2 ans de travail, un mathématicien anglais du nom de Adams fournit la première approximation de la position de cette planète inconnue qui pourrait expliquer la perturbation d'Uranus. Adams fournit ses calculs à Lord Airy, mais celui-ci, on l'a vu tout à l'heure, ne croit pas à cette théorie de la nouvelle planète et donc empêche toute observation et refuse cette vision de Adams. En même temps, en France, Urbain Le Verrier, un autre mathématicien, qui ignore tout des travaux d'Adams, se lance aussi à la recherche de cet astre mystère. Il publie officiellement la position prédite de la nouvelle planète perturbatrice le 10 novembre 1845, soit à peine 20 jours après qu'Adams ait remis ses calculs à Lord Airy. Immédiatement, bien sûr, Lord Airy voit des similitudes entre les calculs d'Adams et ceux de Le Verrier. Donc sous la pression d'Adams, Lord Airy est bien obligé d'ordonner l'observation, mais sa mauvaise foi lui fait donner de mauvaises indications ou des indications insuffisantes à ses astronomes, qui conduit à l'observation à un échec. En France, le même désintérêt face aux calculs de Le Verrier, même lorsqu'il présente ses calculs à l'Académie des sciences à Paris le 31 août 1846, le pousse à se tourner vers un ami astronome, Johann Galle, prussien, qui observera Neptune pour la première fois, à l'endroit prévu exactement par les calculs de Le Verrier, le 23 septembre 1846. Ainsi, Neptune a été découverte grâce au calcul de Le Verrier à la position exacte de ce qu'il avait prévu. Immédiatement, bien sûr, s'engage une polémique entre la France et l'Angleterre. L'Angleterre se réclamant d'être les premiers à avoir découvert cette planète, ou les calculs en tout cas, mais la France se défend en disant que seule une publication scientifique officielle peut valider une découverte. Cependant, il faut louer la qualité des calculs de ces deux astronomes. Adams avait été le premier à les fournir. Cependant, Le Verrier avait conduit de meilleurs calculs et fait une publication scientifique. D'ailleurs, ils se rencontreront et noueront une amitié indéfectible jusqu'à leur mort.
Est-ce que ça vous dit quelque chose, le projet Antares ?
Non.
Le projet Antares, non.
Pas du tout.
Non, non.
Rien du tout.
Ah non, je sais pas du tout. Je connais pas.
Rien. Antares, ça vous évoque quelque chose ?
Ville mythique athénienne, engloutie sous les eaux.
Est-ce que vous, ça vous dit quelque chose, le photon, le neutrino ?
Les photons,
oui, mais neutrino, non.
Oui, c'est dans l'atome. Quoi. C'est la lumière, quoi. C'est un rapport avec la lumière.
Photons et neutrinos, alors ce sont des micro-particules. qui servent par rapport à tout ce qui est, surtout les réactions atomiques, énormément. Et ça sert en fait à, comment dire, c'est plus, oui, c'est quand une particule est émise, il y a toujours le photon ou le neutrino qui est mis avec lui pour contrebalancer cette réaction.
Une fusion, je sais pas, une réaction bêta, je sais plus.
Ouais, un peu, mais... mais photons, c'est par rapport à la physique qu'on a vu ça, mais... Mais neutrinos, non.
C'est mauvais pour la santé.
Est-ce que la masse manquante de l'univers, ça vous évoque quelque chose ?
Waouh.
Non, je connais pas du tout.
Non, pas du tout.
C'est la masse noire, ce serait une antimatière, mais enfin, j'ai juste entendu parler comme ça.
Est-ce que vous pensez que ce serait intéressant d'observer le ciel du fond de la mer ?
Du fond de la mer ?
Aucune idée.
Pourquoi pas ? Comme ça me paraît assez original, on va dire, mais je connais pas, je suis pas assez renseigné dessus pour.
Mais du fond de la mer ?
Du fond de la mer, ça me semble un peu pas très possible, puisque au fond de la mer, il n'y a plus assez de lumière, puisque toute la lumière qui va passer par la mer, en gros, quand on est au fond des océans, l'océan il est noir, on le voit noir. Parce qu'il n'y a plus de lumière, donc observer plus loin, alors que plus proche on voit pas grand chose, ça me paraît.
Donc nous voilà de retour, toujours pour parler de ce fabuleux projet Antares, avec les mêmes chercheurs que tout à l'heure, Monsieur Tambourini, Monsieur Boustot, et les jeunes doctorants Jean Cesario et Fabrice Silva. Donc nous allons rapidement représenter vraiment les idées phares que nous avons développées tout à l'heure, avec les objectifs vraiment de ce télescope Antares.
Donc le télescope Antares est un détecteur à neutrinos de haute énergie. Pourquoi est-ce qu'on veut utiliser des neutrinos ? Bon, tout d'abord, est-ce que c'est un neutrino ? Un neutrino, c'est une particule qui interagit très peu avec la matière, qui peut traverser des distances énormes et donc qui peut nous renseigner sur l'univers à très grande distance et nous renseigner également sur les parties les plus intimes des objets astronomiques. Comme ça peut être des galaxies actives, des quasars, des systèmes avec des trous noirs, chose que la lumière normale n'arrive pas à faire. Alors il faut dire aussi que le neutrino a déjà été utilisé également à plus basse énergie pour comprendre le fonctionnement du Soleil, du cœur du Soleil, parce que comme c'est des particules qui s'échappent facilement, on a pu vérifier le fonctionnement des étoiles. Donc c'est une sonde d'une richesse extraordinaire pour comprendre l'univers lointain et intime, et également comprendre les phénomènes des rayons cosmiques qu'on détecte sur Terre, et finalement pouvoir donner une idée sur l'un des mystères le plus grand en astrophysique actuellement, qui est celui de la matière noire.
D'accord. Donc
je ne suis pas astrophysicien, ce que j'ai compris, moi, c'est que ça permettrait de voir plus loin que tous les télescopes qui actuellement, c'est ça ?
Oui, tout à fait, puisque comme il interagit très peu, peut traverser des distances beaucoup plus grandes que la lumière. La lumière, à un moment donné, elle va être absorbée. Le neutrino, ne le seront pas.
Il faut bien voir que c'est un vecteur d'information plus important, dans le sens où on va voir plus loin et on va voir à l'intérieur, contrairement à la lumière visible qu'on connaît, qui va nous donner des informations sur la surface des corps célestes. Quoi. Là, on va aller directement au cœur des corps célestes.
Au cœur des objets célestes.
Bon, là, vous parlez plus de sonde, finalement, que de...
C'est une sonde, voilà, une sonde qui permet de sonder en profondeur les objets le plus violents de l'univers.
D'accord, donc il y a vraiment d'énormes opportunités pour ce télescope. Et comme on l'a évoqué tout à l'heure, en plus de tout ça, on a une ligne qui est spécialement réservée pour des recherches plus larges, plus pluridisciplinaires. Et donc ça, c'est un peu plus votre domaine, Bourigny.
Oui, en fait, la ligne instrumentée d'Antares sert aussi au projet Antares, puisqu'il permet de notamment de connaître la vitesse, la direction du courant. Donc ça permet aussi de voir comment les lignes vont être plus ou moins bouger. Mais ce qu'il y a d'important pour nous, c'est le fait qu'il y a des instruments sur cette ligne instrumentée, comme par exemple des capteurs de température, de salinité, pour donner un exemple concret, qui permettent donc de mesurer des paramètres qui sont classiques et sur une période de 5 à 10 ans. Mmh. Et donc on aurait non seulement les données en direct, puisque comme le site Antares est connecté jusqu'à la mer, à la Seyne-sur-Mer, on aurait la possibilité de voir des variations de température, des salinités sur de longues périodes. Et ça, c'est important pour voir justement le réchauffement des eaux profondes méditerranéennes en relation avec le réchauffement climatique.
D'accord. Et ces recherches, vous les avez commencées quand
Alors, à vrai dire, l'historique de la collaboration entre le CBPM et le Centre d'Océanologie de Marseille était surtout au départ sur la bioluminescence. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est par rapport au fait que ça crée un bruit lumineux.
Donc, dans un premier temps, en fait, la collaboration, c'était pour aider Antares à voir les problèmes en fait, qu'ils pouvaient rencontrer par rapport à la détection de leur lumière
Les astrophysiciens, c'est un problème. Pour nous, biologistes, j'ai les yeux grand ouverts parce que, justement, les télescopes, pour nous, c'est comme des yeux, puisqu'ils vont aussi mesurer en continu de la lumière créée par des organismes, des macro-organismes par opposition aux micro-organismes. Donc, les macro-organismes type poisson, cnidaire, ténère, alors pour éviter de dire des gros mots, des méduses, différents types de macro-organismes qui pourraient être d'ailleurs visibles grâce à une caméra que nous allons mettre au fond de l'eau lorsque la ligne Milhomme va être, la ligne Milhomme, c'est la ligne instrumentée, va être récupérée. Réhabiliter et on va rajouter des éléments comme ces caméras et on pourra en même temps voir un pic luminescent parce qu'ils ont quand même une caractéristique forte. On pourrait voir un pic, une forme de pic de lumière et de voir en même temps l'organisme. C'est ce qu'on a pour but, voir l'organisme.
D'accord. En fait, la caméra, voilà, permettrait de dire d'où vient cette lumière.
Voilà. Et donc d'associer à terme un type de pic avec
un type d'organisme.
D'accord. Donc ça, c'est pour les macro-organismes.
C'est ce qu'on appelle, je crois, une signature. Donc en fait, ce que vous dites, c'est à tel signal, je sais que c'est tel poisson et donc je vais pouvoir l'enlever parce qu'il ne m'intéresse pas dans le cas de la recherche des neutrinos. Quoi.
Voilà, par exemple.
Dans le cas de la recherche des neutrinos, mais qui vous peut vous intéresser.
Bien entendu. Alors moi, particulièrement, peut-être pas, mais des collègues. Parce que moi, je suis microbiologiste marin, en fait. Je suis au laboratoire de microbiologie, géochimie et écologie marine. Donc, ce qui m'intéresse moi particulièrement de le projet Antares, c'est les bactéries qui font de la lumière. Parce qu'il y a aussi des bactéries. Les bactéries, c'est microscopique. Mais le bruit lumineux que les bactéries peuvent faire, c'est beaucoup plus diffus. Et donc là, la bioluminescence bactérienne est connue depuis longtemps. Mais par contre, on n'a pas d'estimation sur en milieu naturel, sur la quantité de lumière qui peut être émise par ces bactéries. Et donc, nous, au laboratoire, on s'intéresse à ce phénomène-là. Comme on est à 2400 mètres de profondeur, c'est profond. donc, il y a une forte pression. C'est 240 bars de pression.
D'accord.
Et moi, ce qui m'intéresse, effectivement, c'est de voir cet effet de la pression sur la bioluminescence.
Et est-ce que ces recherches en ça sont novatrices? Enfin, le fait d'être à 2400 mètres de profondeur, enfin, on a dit que donc, pour tout ce qui était physique des particules tout à l'heure, c'était vraiment un projet nouveau. Non, est-ce que vous, en océanologie...
La recherche en océanologie s'est focalisée essentiellement sur la surface. L'océanologie, c'est quelque chose de relativement récent, en quelque sorte. C'est très pluridisciplinaire. Donc, la recherche, c'est effectivement focalisée sur la couche de surface. Et ma thématique de recherche, moi, focalise effectivement sur le milieu profond. Donc là, pour moi, le site d'intérêt, c'est quelque chose de parfait. puisqu'on a comme projet, notamment, associé à cette bioluminescence, mais aussi étudier la physiologie des bactéries, la respiration des bactéries. Donc, on va essayer de mettre sur la ligne instrumentée, alors j'espère quand elle sera mise à l'eau ou sinon sur la prochaine mise à l'eau, un instrument qui permettra de mesurer la respiration des bactéries. Et ça, c'est en cours de fabrication. Et ça, c'est une collaboration qui est effective entre le COM et le CPPM. Et effectivement, si on n'avait pas commencé par il y a de la luminescence, qu'est-ce que c'est, d'où ça vient, on n'aurait pas pu imaginer qu'une interaction entre des physiciens et des biologistes puisse débuter. Et là, c'est en train d'amener à construire un nouveau prototype pour mesurer une respiration bactérienne qu'on n'est pas capable de mesurer encore en milieu profond.
Et justement, comment se passe cette collaboration? Parce qu'on sait que des fois, les chercheurs ont un peu du mal à échanger entre eux et a fortiori quand ce sont dans des champs disciplinaires un peu différents.
Je dirais que précisément parce que c'est des domaines un peu différents, elles se passent d'autant mieux. Il y a une collaboration très très étroite entre les physiciens et les océanographes.
D'accord. Et tout ce projet est coordonné, chapeauté par qui? Quel est vraiment le...
Bon, et comme dans toute collaboration, il y a un responsable d'une collaboration qui est choisi démocratiquement tous les une certaine période, et il y a toute une série des commissions, d'études, d'analyses, des progrès, de l'expérience, d'analyse des données, etc.
Donc il y a différents responsables pour toutes ces tâches.
D'accord. Si on continue, en fait, donc là vous avez parlé pour le champ océanologie, mais il y a également d'autres recherches peut-être plus... éventuellement des recherches en sismologie effectivement, ou ce genre de choses.
Il y a également installé avec la ligne instrumentale, la Milum, il y a un sismographe qui est installé et qui produit des données depuis plus d'une année et qui sont utilisées par des géologues de l'Université de Nice.
D'accord.
C'est-à-dire qu'en fait, le projet Antares implique une installation de capteurs, d'appareils de mesure au fond de la mer à 2500 mètres. Et donc plusieurs organismes en fait s'associent à ça pour mettre leurs propres appareils parce que c'est une aubaine.
Tout à fait. C'est-à-dire, le but initial, c'est faire l'astronomie neutrino. Mais pour cela, on doit aller dans un milieu très particulier. Et donc, installer un instrument qu'on n'a jamais mis, des capteurs de lumière en profondeur pendant très longtemps... Et donc ça, c'est clair que ça intéresse d'autres disciplines. C'est un projet purement multidisciplinaire.
Et au niveau de la technique, l'installation, c'est passé comment concrètement?
Eh bien bon, l'installation, les lignes sont mises à l'eau. Il y a toute une technique pour le faire. Ce n'est pas toujours évident parce qu'il faut savoir exactement où est-ce que la ligne est mise. Donc pour cela, on utilise des capteurs acoustiques et par triangulation, on arrive à connaître la position de la ligne à quelques mètres près.
Et à quelques mètres près, ça ne pose pas de problème?
Non, ça ne pose pas de problème. La distance entre deux lignes, normalement, est de 60 mètres. Donc, si on s'est dévié de 2-3 mètres, ça ne pose aucun problème.
D'accord. Et vous utilisez des navires câbliers après pour faire venir avec la Terre?
Une fois que les lignes sont mises à l'eau, il y a déjà dans l'eau depuis 2 ans, il y a une boîte de raccordement.
D'accord.
Où on vient raccorder. Donc, tout d'abord, on met la ligne à l'eau et ensuite, avec un petit sous-marin, on vient connecter la prise dans la boîte branchée dans la boîte de raccordement.
Et ça, c'est technologiquement, c'est hyper difficile, bien entendu. Vous imaginez, c'est à 2400 mètres, 240 barres de pression. Et j'assure que c'est beaucoup.
Oui, c'est ça. C'est que vraiment, déjà, le premier défi du projet, c'est la gestion de cet environnement, qui est a priori complètement hostile.
Tout à fait.
Pour aller travailler, quoi.
Il y a des défis techniques qui ont été... qu'on a pu vaincre, ne serait-ce que la connexion voilà, dans cette boîte de raccordement où les signaux, une partie des signaux sont faits à travers des fibres optiques. Donc, il ne faut pas qu'il y ait des poussières, de l'eau, ni rien du tout. Donc, c'est des connecteurs très, très particuliers. Rien que d'avoir une connexion correcte, c'est déjà un exploit.
Mais je voulais insister aussi sur le fait que ce projet, bien sûr, est centré sur l'astrophysique. Mais par dommage, mais en intérêt collatéral, il y a toute la recherche qu'on peut faire autour, donc sur le plan technologique, mais aussi, comme on l'a dit, en océanologie. Mais par exemple, on est en train, actuellement, on va bientôt soumettre un article dans Nature. Alors, soumettre, ça ne veut pas dire accepter, mais qui justement parle de cette bioluminescence qui a été mesurée par les photomultiplicateurs. Alors bien sûr, au départ, le projet Antares n'imaginait pas peut-être publier sur la bioluminescence, mais on s'est rendu compte en fait que la bioluminescence qu'il pouvait y avoir au fond était beaucoup plus importante que ce qu'on pouvait imaginer, parce que ça n'avait pas été vraiment étudié, et que là, on a des yeux profonds qui permettent de mesurer ça en continu.
En fait, ouais, le projet propose finalement un laboratoire de recherche sous-marin.
Un observatoire profond.
Un observatoire sous-marin à 2400 mètres, quelque chose qui est vraiment complètement...
Et en océanologie, c'est quelque chose qu'on cherche à faire, c'est-à-dire à obtenir des données en temps réel, en continu, sur de longues périodes. Et des collègues européens cherchent à mettre en place des lignes instrumentées. Ils l'ont pas encore connecté à la Terre, ils l'ont pas encore, et nous on est à Marseille, on l'a déjà. Donc effectivement, je suis enthousiasmé de pouvoir collaborer avec ce projet qui en plus intéresse au milieu profond, qui est ma spécialité.
Donc, effectivement, la région et la France au niveau de la recherche a vraiment un bel avantage là-dessus. Donc, est-ce que, je ne sais pas, quelqu'un a des choses à ajouter ? Ou on peut remercier nos intervenants ?
Je suis content.
On a quelqu'un
on
de satisfait.
On peut repréciser que c'est à la Seyne-sur-Mer, quand même.
Oui, on a évoqué...
Le tout à la Seyne-sur-Mer.
On a évoqué, effectivement, les eaux profondes. Donc, je rappelle, tous les instruments sont implantés au sud de l'île de Porquerolles pour la qualité de ces eaux, quelque chose qu'on peut, effectivement, également souligner.
En milieu varois.
Sur les côtes varoises. Et relié effectivement à la Terre, donc ce qui devait être le plus proche peut-être au niveau de la Seyne-sur-Mer.
Voilà, donc on a trouvé l'endroit le plus proche pour pouvoir installer le poste de commandement, si j'ose dire, de l'expérience.
De réception des mesures. Et une petite question sur la suite. On a vu que vous avez implanté d'autres lignes, mais à long terme, comment vous allez enlever tout ça ?
Eh bien, bon, les lignes, on peut le récupérer. Hein, donc, elles sont ancrées au sol et maintenues verticalement avec des bouées. Mais il y a un système qui permet d'ouvrir la connexion avec la fixation au sol. Et donc, avec la bouée, la ligne remonte toute seule.
Remonte automatiquement. Tout.
C'est important pour le maintien, pour s'il y a des problèmes sur les lignes, pouvoir les récupérer. Donc c'est primordial, recueillir les données, parce que là, c'est ce qu'il y a de la particularité, c'est d'avoir une connexion qui ramène à la Terre. En général, en océanologie, on largue des lignes instrumentées, mais qui sont là pour un certain temps, quelques semaines, quelques mois, et après il faut les récupérer parce que les données, elles sont au fond.
D'accord.
Donc ça, c'est technologie qui est relativement maîtrisée et que maintenant la CPP maîtrise bien, bien sûr.
Mais il faut dire que normalement, les lignes doivent rester à l'eau, si tout va bien, pendant environ 10 ans. Elles doivent fonctionner les détecteurs sans problème.
D'accord.
Et qu'on récupère les lignes seulement s'il y a un problème sur une ligne. Autrement, elles restent à l'eau.
D'accord. Donc vous pouvez la remonter, réparer,
replonger.
Vous pouvez
la remonter pour réparer, mais normalement, elle doit rester à l'eau pendant 10 ans.
Normalement, les recherches initiales ont été faites pour...
Cela dit, on n'est pas sûr, dans la mesure où on voit qu'il y a plein de possibilités finalement d'extension de recherche à travers de ce laboratoire sous-marin, finalement. Il est possible qu'on a prévu 10 ans, mais finalement, cela dure 20 ans, 30 ans, je ne sais pas.
Bon, je ne sais pas, 30 ans, c'est peut-être un peu trop, mais déjà 10 ans, ça sera très très bien.
Et puis déjà, ce qui a été fait depuis 10 ans, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire. et de vraiment novateur. Mmh.
Tout à fait.
Donc je pense qu'on va rester sur ces quelques termes pour vous remercier tous. Une petite bibliographie si vous voulez avoir un peu plus de renseignements sur, sur ce fabuleux projet. Donc le site d'Antares qui est antares.in2p3.fr, donc 2 et 3 en chiffres. Sur le site de l'IN2P3, vous allez trouver également le dossier de presse qui est très bien fait sur, sur le sujet. Pour les plus jeunes, il y a un dossier dans Science et Vie Junior qui est paru. Et enfin, de manière peut-être plus, plus accessible, un Anselme Lanturlus sur le Big Bang qui est à signaler. Donc vraiment merci à tous, en particulier à nos deux intervenants d'avoir expliqué les choses si clairement. Pour moi, non scientifique, je vous assure que c'était très limpide.
Merci
et vous. Merci à nos deux doctorants qui ont essayé de combler mes lacunes en intervenant. Voilà, merci beaucoup. Si vos résolutions de 2006 étaient de vous cultiver, dépêchez-vous. Les Savants de Marseille vous aident et vous proposent l'actualité scientifique en kiosque et en salle.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans vos kiosques à journaux. Pour ce dernier mois de l'année, la revue scientifique La Recherche nous emmène au temps des dinosaures. Du mégalosaurus au tricératops, en passant par le diplodocus, vous découvrirez tout sur la vie de ces lézards terribles, comment ils vécurent, ce qu'ils mangeaient, comment et où ils vivaient. Quelques pages plus loin, La Recherche fait le point sur le virus Ebola et suit une équipe de virologues qui capturent des animaux sauvages en Afrique afin de mieux connaître le virus et son mode de propagation. En résumé, ce mois-ci dans La Recherche, voyage au pays des dinosaures et chasse au virus Ebola. Science et Avenir, quant à lui, nous ouvre pour Noël les portes du cœur de la Terre où se cacheraient des océans, des planchers continentaux et même des billes de fer et où se dérouleraient comme sur Terre des avalanches. Science et Avenir nous offre aussi une expo photo sur le monde du vivant, souvent invisible à l'œil nu, grâce à la magie du microscope en couleur. Le numéro de décembre du magazine Pour la Science nous entraîne aux frontières des états. Comment l'eau passe de l'état solide à l'état liquide, puis à l'état gazeux. Pour la Science ouvre le débat de la limite de chaque état à la lumière de plusieurs exemples biologiques, chimiques et physiques et nous prouve qu'il est facile de reconnaître un état donné mais que les frontières de chaque état restent floues. À la une de Science et Vie en décembre, quels moyens aura l'homme pour refroidir directement la planète si le réchauffement n'est pas endigué ou pire, s'emballe ? Autrement dit, une thématique d'actualité plus que brûlante. Autre thème développé ce mois-ci dans le magazine, la confirmation scientifique d'une hypothèse qui a choqué quand le magazine en a parlé la première fois il y a 5 ans. Les pyramides égyptiennes, qui appartiennent aux 7 merveilles du monde, auraient été construites en blocs de ciment et non en blocs de pierre taillés. Détail de l'enquête dans Science et Vie. Enfin, pour les plus jeunes, Science et Vie Junior non seulement nous plonge dans l'univers fantastique des jeux vidéo dernière génération, mais nous fait aussi découvrir le système solaire dans lequel nous évoluons.
Nouveauté de cette revue de presse de décembre, un petit tour du côté des sciences plus douces, économiques et sociales. Et on commence par le numéro de décembre d'Alternative Économique, qui nous propose un dossier sur le changement climatique, basé en partie sur le rapport de Nicolas Stern, ancien chief économiste de la Banque mondiale. Ce dossier met d'abord en lumière les trop faibles avancées liées à l'accord de Kyoto sur la limitation des émissions de gaz à effet de serre. Puis il expose les principales conclusions du rapport Stern qui consiste en une intégration des prévisions scientifiques dans les modèles économiques. Et si ce rapport est plutôt pessimiste, puisqu'il prévoit, si rien ne change, une dépression de l'ampleur de celle des années 30, Alternative Économique finit son dossier sur une note plutôt optimiste, espérant que ce rapport, faisant de la réduction des émissions une nécessité économique, permettent un changement de politique radical. Toujours dans le numéro d'Alternative économique de ce mois-ci, un article très intéressant sur le microcrédit, le dispositif permettant aux plus pauvres d'avoir accès à un crédit et pour lequel Mohamed Younous vient de recevoir le prix Nobel de la paix. Loin de remettre en cause les bénéfices liés à cette pratique, Alternative économique met toutefois en garde contre l'euphorie ambiante qui voudrait que le microcrédit soit la solution miracle à la pauvreté du Sud, en soulignant notamment le risque de surendettement lié à cette pratique. Tout en louant l'aspect positif du microcrédit sur les zones urbaines des pays en voie de développement, la conclusion de cet article insiste sur la nécessité de ne pas substituer le microcrédit aux aides des pays les plus avancés.
Petit clin d'œil de fin au magazine L'Expansion qui nous offre pour Noël un numéro spécial consacré à la cité phocéenne. Bonne fête de fin d'année à tous, bonne lecture et au mois prochain pour les premières éditions scientifiques de 2007. Merci. Bonjour, ceci est l'agenda numéro 2.
On change rien, on vous informe de l'actualité scientifique et culturelle dans la région.
L'association IRIS, Images, Reflets, Initiation Scientifique, organise le mardi 19 décembre à 20h30 une soirée astro animée par Sandrine Ferry, intitulée « Dis-moi comment tu brilles, je te dirai qui tu es ». Rendez-vous au local Bon, place Louis Marin, centre-ville de La Ciotat.
Le jeudi 21 décembre à 18h, c'est l'Office de la mer, 6 rue Fort Notre-Dame dans le 6e, qui organise une conférence qui s'intitule « Les docks de Marseille ». C'est l'occasion de visiter l'histoire des docks de Marseille et le rôle qu'ils ont joué dans la modernisation des techniques et de l'aménagement portuaire, ainsi que la relation entre le port et la ville.
Dans le cadre des mardis de l'université, le 9 janvier 2007, à la bibliothèque Méjeanne d'Aix-en-Provence, vous pourrez assister à une conférence grand public, salle Armand Lunel, organisée par Madame Nathalie Bertrand, maître de conférence en histoire de l'art contemporain, sur le thème « Le voyage des architectes en Orient, l'architecture du voyage en Occident ».
L'association Échange et Diffusion des Savoirs, qui organise des conférences régulièrement à l'hôtel du département, 52 avenue de Saint-Just, dans le 4e, continue dans sa série « Les identités à la dérive ». Ça se passe le jeudi 11 janvier à 18h45. Cette fois, ça s'intitule « Des vertus de l'exil et du déracinement ». Ça parle de Garcilaso de la Vega, El Anka, et de Ulida Ekano, The African, deux héros du Nouveau Monde. Donc c'est animé par Carmen Bertrand, qui est professeure d'anthropologie à Nanterre et ancienne élève de Claude Lévi-Strauss.
L'Association des Amis du Patrimoine Médical et le Conservatoire du Patrimoine Médical de Marseille organisent le jeudi 11 janvier à 17h30, amphithéâtre HA1 de l'hôpital Timone, une conférence sur l'histoire de l'épilepsie animée par Georges Serratrice.
Le Centre de physique des particules de Marseille à Lumini organise en ce moment une série qui s'intitule « Mystère au cœur de l'univers et de la matière ». La prochaine conférence, c'est le samedi 13 janvier à 10h. Elle s'intitule « Qu'est-ce que la masse ?» Elle est animée par André Tilquin, qui est chercheur au CPPM.
Le CCSTI Agora des Sciences organise à l'espace Écureuil, le mardi 16 janvier à 18h30, dans le cadre du cycle « Information débat, l'homme au sein de l'évolution », une conférence sur les humains dans la biodiversité, avec Jacques Weber, directeur de l'Institut français de la biodiversité et directeur de recherche du Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement.
Comme on a du temps en ce moment, les conférences ne sont pas très nombreuses, on va vous parler des choses qui se passent régulièrement à Marseille. Donc les archives et bibliothèques départementales Gaston Defer organisent tous les mercredis et samedis un parcours urbain avec l'association L'Italique. C'est une visite guidée du Darinck et de la Joliette, selon les approches architecturales, historiques et sociologiques.
L'association Andromède propose également à l'Observatoire de Marseille-Provence des cours d'initiation à l'astronomie et chaque samedi, des journées consacrées à l'observation et à la visite du planétarium pour tous les publics.
Plus exotique, le musée de la préhistoire des Gorges du Verdon, donc c'est à Quinçon dans les Alpes de Haute-Provence, ça vous ramènera des milliers d'années en arrière. Donc c'est à 100 km de Marseille dans le canyon des Gorges du Verdon, l'occasion d'une belle balade. Le parcours, c'est une visite d'un musée qui retrace 5 millions d'années d'histoire de l'homme en Provence, depuis l'apparition des hominidés jusqu'à la conquête romaine. On vous présentera des reconstitutions, des spectacles multimédia, des panneaux didactiques, consoles interactives et une exposition d'artefacts préhistoriques. Ensuite, si vous êtes d'attaque, c'est une balade d'une heure dans les gorges jusqu'à la grotte de la Bombonne, où la présence de l'homme est manifeste depuis 400 000 ans. Et à la fin, la visite du village préhistorique, qui reconstitue les habitats d'époque variée et propose des démonstrations d'artisanat préhistorique, de chasse avec les armes traditionnelles et une simulation de fouilles pour les archéologues en herbe.
C'était le dernier agenda 2006. On vous remercie de votre écoute. Bonne fête à tous.
Bonne fête.
Merci de votre fidélité aux savants de Marseille. Rendez-vous en janvier pour une émission plus terre-à-terre avec le peer-to-peer, enjeux juridiques et économiques. Bonne fête à tous, ne mangez pas trop de chocolat.